partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Alors, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Il est l'heure, Monseigneur. Ça chahute dans le studio déjà.
Tellement content de me retrouver.
Voilà, alors bah, justement, on va commencer par la plus belle. Jacqueline, merci d'être venue.
Merci à vous, bonjour.
J'ai dit la plus belle, mais.
Non, mais il y avait.
Après Josiane, c'est ça
ou... Non, mais Josiane, c'est la plus belle voix.
Non, mais tu bafouillais un petit peu. Je ne vais pas confondre.
Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec Marc. Jacqueline, Josiane et Jean-Jacques. Et puis, ben, on n'a pas de nouvelles de notre ami Ricardo qui doit encore être sous le soleil.
De toute façon, il n'y a pas de place voilà. pour lui, là.
Exactement. Des tropiques.
Donc, avant de commencer notre petite émission par les chansons mystères, les chansons pour découvrir le couple mystère, on va commencer par la petite phrase du jour, Marc. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Voilà, je vous propose cette phrase qui est très courte. L'écoute crée la parole. Les gens ont besoin de s'exprimer, la parole est libératrice, elle aide à exister en quelque sorte, et malheureusement il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer parce qu'on les écoute pas, et
voilà.
et l'écoute, écouter pour moi c'est l'écoute, c'est s'intéresser à la personne, c'est-à-dire
absolument,
c'est pas uniquement l'écouter puis penser à la question qu'on va lui poser après, mais c'est justement être dans cette posture
disponible,
de compréhension et de s'intéresser aux gens. Et c'est comme ça qu'on crée un climat de confiance pour que la personne s'exprime.
Absolument, je suis d'accord. Et l'écoute est beaucoup plus difficile à faire que de parler.
Et bien sûr.
Il paraît qu'on a deux oreilles et une seule bouche.
Voilà, hein. C'est ça.
Ce qui est paradoxal, c'est que quand on écoute, ça peut laisser des blancs. Et à la radio, ça passe pas bien, les blancs. Donc
on dit pourtant, la parole est d'argent et le silence est d'or.
Mais bien sûr. Mais le silence...
Mais l'art d'écouter, ça n'est pas si facile que cela.
Bon, alors je vous propose tout de suite d'écouter, moi, la première chanson pour découvrir le couple mystère qui, cette semaine, est un couple cinématographique. Wow. Et on va écouter immédiatement Jean Schultes avec Confidence pour Confidence. À tout de suite.
Moi je veux
Alors voilà, bah c'était Jean Schultes avec Confidence pour Confidence. Et, ça rigole dans le studio, Jacqueline, on est en train de la perdre.
Ah non, pas encore.
Elle va avoir une crise bon, de tout
donc,
à l'heure qui va succéder.
L'indice, c'était pas l'auteur, c'était pas la chanson, c'était l'année de la chanson 1981. Alors, année présidentielle, est-ce que vous vous souvenez, vous, ce que vous faisiez en 1981 comme activité, par exemple? Disquaire pour...
Oui, pour moi, oui.
Pour Jacqueline. Je vendais des bouquins et des disques. Et
ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez être allé au cinéma en 1980, cette année présidentielle?
81.
Probablement.
Bon. Est-ce que vous êtes allé voir un film comme 3 millions de spectateurs en France? Et c'est le couple de mystères de la semaine qu'il va falloir découvrir. Donc, le premier film au box-office de 1980, c'est votre couple mystère. On en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure. Bon, alors bah, l'écoute, pour le coup, ça ouvre le dialogue, ça ouvre la parole. Ça vous a évoqué quoi, vous, cette chanson? On a parlé de chanter différemment des autres en 81 pour cette chanson. Comment chantaient les autres, Jacqueline?
Bah, de manière, me semble-t-il, moins saccadée dans la manière de faire, plus mélodiste. Donc Schultes, c'était vraiment quelqu'un de rare dans le panorama de la chanson de l'époque.
Il n'y avait pas de chanson rythmique autrement que...
Comme ça, de prime abord, je ne m'en souviens pas. Mais moi, j'ai plus des chansons, effectivement, où la mélodie était plus prégnante. Là, c'est plus saccadé quand même.
Oui. Non, mais il faut dire qu'il chantait. Il chantait sur le rythme de sa batterie, parce que c'est un batteur.
Oui.
Donc, je veux dire que.
Oui, on entend très bien la batterie,
il chante en jouant la batterie. On l'a déjà vu et c'est assez impressionnant. Parce qu'un chanteur qui bat en même temps, il y en a assez peu. Hein.
Oui. Pas si évident que ça. Hein.
Alors, moi, 1980, en musique et en chanson, ça m'évoque un peu la fin du rock'n'roll. Et pour le coup, je trouve que c'est peut-être une transition entre les années rock des années 60-70 et puis les nouvelles tendances qui sont nées dans les années 80-90.
L'après-disco.
Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu novateur comme manière de faire. Je voulais vous proposer un petit pour ou contre cette semaine parce que je suis tombé sur des choses un peu surprenantes.
Alors, on a le droit de choisir. Moi, si je suis contre.
Alors, ben voilà.
Alors, justement, nous, on va être pour. Hein, pour
Je serais assez curieux d'entendre justement ce que vous pensez du tatouage. Parce que j'ai trouvé des reportages assez étonnants sur le caractère, on va dire, thérapeutique du tatouage. Ça, c'est une nouvelle tendance et qui devient, on va dire, une nouvelle manière de s'approprier son corps. Vous, le tatouage, c'est pas tout neuf, hein, ça a toujours existé. Mais effectivement, alors moi, je vais avoir 50 ans bientôt. Je suis d'une génération intermédiaire. J'ai l'impression entre le début et la fin. Et pour le coup, j'ai aussi vu le tatouage comme associé à des trucs de prison, à des camps. Et pour le
c'est
coup,
c'est vrai qu'à l'origine, c'était plus effectivement les gens un petit peu de mauvaise vie, hein.
Ouais.
Ceux qui sortaient de prison.
Alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt bien vu et j'ai l'impression qu'on devient minoritaire ceux qui n'ont pas de tatouages.
Oui, mais personnellement, les tatouages, non. Ça, c'est vraiment... comme les piercings et les tatouages, absolument...
Et pourtant, t'as les oreilles percées, Jacqueline.
Ah bah oui, mais c'est différent. Non, mais je parle des piercings dans le nez ouais. Ou à l'arcade sourcilière, des choses comme ça. Ça me dérange un peu, si tu veux. Et le tatouage, alors là, j'avoue que je
alors,
n'y fais
moi,
pas
en,
du tout.
Moi, en tatouage, je n'aime pas. Pourtant, je dois confesser, entre guillemets, que mon papa, quand il est parti à la guerre, il s'est fait tatouer un portrait de femme et le nom de sa femme, Suzanne.
Ah oui, mais ça,
voilà.
C'est différent.
Oui, mais alors,
sauf qu'il n'a pas changé de femme après.
Ben non. Mais alors, le problème, c'est qu'il avait un petit peu honte de ça. Et dans ses professions, il avait toujours des manchettes. Oui. Il voulait pas montrer.
C'est quand même. Moi, je pense que le tatouage, c'est quelque chose de très personnel. Et ce qui me dérange un peu, c'est que tous ces jeunes qui sont tatoués de la tête aux pieds s'habillent de façon à laisser paraître tous les tatouages qui, à mon avis, devraient rester très intimes.
C'est pas ce qu'ils cherchent.
Ben non.
Eux, ce qu'ils cherchent, c'est justement à les montrer.
Attends. Problème de génération, hein.
Pardon, excuse-moi. Je suis beaucoup les sports, notamment le football. Et faut voir le tout joueur actuellement de football, ils sont tatoués et d'une manière très expressive, notamment les bras complètement recouverts. D'ailleurs, des fois, c'est tout noir, je vois pas du tout le dessin, je vois plutôt, je sais pas, sur le cou.
Enfin, oui,
il y en a partout. C'est une mode, c'est une tendance, je pense. Et il y a même des émissions de télévision qui sont de télé.
Ah oui, ah bah oui, le meilleur tatoueur et tout.
Moi,
ça,
personnellement, oui. Ça me branche pas du tout.
Hein.
Ça, c'est peut-être un problème de génération, mais alors là, pas du tout.
Et alors, tu disais, c'était effectivement pour des publics, on va dire, de mauvaise vie. Et c'est vrai que ça a été aussi un signe distinctif de clan, par exemple.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, quand vous avez affaire à un serveur ou à un banquier qui est tatoué? J'ai l'impression qu'on n'en pense plus rien tellement c'est devenu commun.
Bah personnellement, je ne juge pas, mais je n'irai pas lui faire de reproches, mais intérieurement, personnellement, ça me dérange.
Et il y en a que tu trouves esthétique, jolie ou
jamais? Ah oui, il y a des tatouages absolument magnifiques.
Un boulot pas possible.
Les tatoueurs sont des maîtres artistes indéniables.
Je me suis permis, quand tu parlais de sa marque, des avant-bras souvent qui sont remplis, qui sont pratiquement bleus.
Ils sont noirs.
Bleus ou noirs.
Et je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens comme ça et je me suis permis de les voir, de les regarder et dire je peux voir votre avant-bras. Il y a des fois, mais c'est somptueux.
Des fois, c'est fascinant.
Hein, je voudrais surtout pas avoir ça sur moi, mais je veux dire, je trouve c'est...
Et puis, il y a un problème, c'est que quand on est jeune, la peau est ferme, mais quand on prend un certain âge, la peau, évidemment, n'est plus aussi ferme, évolue. Ça me rappelle le film avec De Funès et Gabin, qui s'appelait Le Tatoué, et qui s'était fait tatouer un tableau de maître dans le dos.
Modigliani.
Voilà, et il voulait lui vendre.
Il voulait découper la peau du dos.
Non, l'autre voulait lui acheter.
Voilà, exactement. Et si tu veux, bon, c'est vrai qu'en vieillissant, la peau est beaucoup plus élastique et tout. Et je me demande, quand on a fait, par exemple, un portrait, ce que ça devient 50 ans après.
Elle est plus flasque, elle n'est pas élastique, elle est flasque.
Il y a aussi, je pense aussi à un... Alors là, c'est un triste tatouage, c'est celui du marquage...
Des juifs en entrant dans le camp de concentration.
Ça aussi, c'est un souvenir absolument.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça avait une vraie connotation et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a 80 ans, avoir un numéro tatoué sur la peau,
c'est
pas...
Et je pense que ça ravive tous les souvenirs des horreurs passées.
Mais j'ai jamais compris d'ailleurs, justement, les chiffres sont souvent des tatouages qui sont faits, alors soit sur la nuque, soit... Et qu'il n'y ait pas eu de commentaires assez désobligeants là-dessus, ça rappelle de mauvais souvenirs.
Moi, si je me permets de vous en parler, c'est parce que je suis tombé sur le fait, effectivement, que des personnes malades du cancer se faisaient tatouer assez régulièrement pour réapproprier le corps. Et c'est une dimension que j'ai trouvée intéressante, parce que,
certainement.
Ça donne une autre signification.
Oui.
Mais c'est vrai que, j'ose espérer que ça concerne une minorité de tatoués. J'espère.
Et pour cacher justement, pour cacher
une cicatrice, des choses comme ça.
Ça peut être aussi. Alors justement, on parlait des personnes qui changent de conjoint et qui ont mis le conjoint.
Voilà.
J'ai vu des cas où ils sont obligés de se faire des tatouages.
Au niveau des tatouages, moi j'ai vu des trucs rigolos quoi. Et le truc le plus rigolo, c'est vous savez la grosse brute. Mais ça c'est dans les dessins, hein, la grosse brute énorme, un gros torse et tout ça. Et puis qui a marqué à ma maman. Mais je crois que les plus
c'est
fréquents,
des gros tendres.
Les plus fréquents, je veux dire, c'est
des gros nounours en fait.
L'encre de marine.
Oui.
Hein, souvent, hein, c'est le genre de truc.
Mais quand le tatouage est petit et discret, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est tous les gens qui ont vraiment des tatouages partout.
Oui.
Et j'ai vu un article il y a quelques années d'un instituteur. Lui, il s'est fait tatouer la figure en entier. Et ça a posé des problèmes au niveau des parents.
Là, en l'occurrence, j'appelle plus ça du tatouage, mais de la transformation
corporelle. Mais la provocation. Tu te rends compte, c'est absolument terrifiant.
Le premier tatouage. Enfin, le premier, non, pas le premier, mais celui je savais même pas ce que c'était. C'était Popeye.
Oui.
Popeye avait son gros
biceps. Ouais,
il avait son encre de marine.
Tu parles de Popeye the Sailor Man.
Popeye the Sailor Man.
Et Olive.
Olive.
Et Mimosa, son petit.
Bon, bah voilà. Donc, au final, pour ou contre le tatouage? Pour les autres, on va dire.
Oui, voilà.
Ah bah, pour les autres, pas pour moi.
Et chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Oui, alors, oui, voilà. Absolument.
Donc, pour les autres, là. Contre moi. Non, mais voilà, bon, ça fait partie
et la prochaine
des...
fois, ça sera pour ou contre le piercing, c'est ça?
Non, mais par contre, c'est très juste ce que tu dis, effectivement, quand ça devient ostentatoire,
oui,
quelque
voilà,
part. Moi, je trouve que c'est de la transformation corporelle.
Oui.
Et souvent, ça s'associe avec du piercing, ça s'associe avec,
oui,
on
ça,
va
ça
dire,
ça
des implants curieux. Ou...
Par contre, les boucles d'oreilles, tu ne me verras jamais sans paire de boucles d'oreilles. J'ai l'impression que sans les boucles d'oreilles, je suis toute nue.
Et ben voilà,
t'as ça depuis que t'es enfant? Tu t'es fait percer quand
non, depuis que je suis jeune femme.
C'est comme moi avec la montre. Si j'ai pas ma montre, j'ai l'impression d'être.
Ah bah tenue. Moi c'est pareil. Ah, moi,
chaque fois que je vois un truc comme ça dans le nez, j'ai envie de tirer dessus.
Mais moi ça me rappelle les vaches que l'on mène.
Oui,
tu vois.
On tombe dans les clichés là. On va écouter tout de suite la deuxième chanson, si vous voulez bien. Il s'agit de Gilles Kaplan avec Tout ce qui nous sépare. À tout de suite.
C'était Gilles Kaplan.
Eh ben vas-y. Donc c'était Gilles Kaplan avec tout ce qui nous sépare.
Pourquoi s'appelait Gilles Kaplan? Kaplan, ça vient du personnage de Cary Grant dans La mort aux trousses.
Oh.
Eh ben oui. Voilà.
C'est pour ça, c'est elle qui le racontait
elle
adorait ce film et tu sais, il est pris pour quelqu'un d'autre et tout ça, il est embringué dans l'histoire d'espionnage alors que lui il est complètement innocent.
Je le revois courir avec un avion au-dessus de la tête.
Voilà.
Là,
Pardon. Donc, alors moi je suis très agacé parce que Jean-Jacques a encore trouvé mon couple mystère. Il me vole tous mes trucs et moi je sais plus quoi faire. La prochaine fois je vais lui donner une lettre, point. Allez, le Z.
C'est vrai que c'était un gros truc là. Bon, on le dit pas tout de suite.
Non, on va pas le dire tout de suite.
On va laisser le suspense.
On va juste dire que donc c'était un couple cinématographique. Ils ont fait 3 films ensemble et des films majeurs, vraiment qui ont été très très vus par le public.
Pas ses repas à la télé.
Et c'était pas un couple, un homme, une femme.
Non, c'était pas un couple, un homme, une femme. Un duo un peu déjanté avec, on va dire, 2 personnalités opposées.
Et c'est pour ça que la chanson avant, Tout ce qui nous sépare.
Ben voilà.
Tu vois qu'il y a un lien.
Oui, un petit peu, au final. On trouve, quand on écoute, on trouve. Bon, alors, on va écouter la réflexion de Marc, justement. Que veux-tu nous dire, Marc? Nous t'écoutons.
On a parlé d'idée d'écouter qui crée la parole, l'écoute crée la parole. J'ai aussi une autre phrase aussi qui renforce ça, qui dit « La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, ils écoutent avec l'intention de répondre.
Oui. » Vous voyez ? C'est tout à fait exact.
Hein ? Et donc, je trouve cette phrase illustre bien la difficulté que tu évoquais tout à l'heure, Jacqueline. Cette posture d'écoute, elle est finalement assez rare quand on regarde la conversation. Si vous faites attention aux gens avec qui vous êtes, vous parlez, il y a beaucoup plus de gens qui parlent que de gens qui écoutent dans le sens qui portent attention et qui s'intéressent à ce que vous dites.
Tout à fait. Si tu veux en placer une, t'as intérêt quand même.
Ben voilà. C'est
là justement où est le problème, justement, quand on est autour d'une table, il y a toujours des gens qui prennent l'ascendant sur d'autres et les autres, il n'y a pas la parole pour lui. Il n'y a pas la place. Et ça, c'est dommage.
Mais je me dis aussi que c'est pas compatible avec toutes les activités. Enfin, il y a des métiers dont c'est le faire, puis des métiers dont c'est le parler. Et je pense aux hommes politiques qui sont pas toujours à l'écoute, j'ai l'impression.
Ah, bah, complètement.
Et pourtant, on est un peu forcé de les écouter, au moins régulièrement. Mais c'est vrai que...
Bah, c'est comme dans les débats de journalistes avec les invités. Bien souvent, le journaliste, il prend la parole et il n'écoute pas son interlocuteur.
Exactement.
Alors, maintenant, je l'ai constaté.
Un petit truc un petit peu plus léger. Nous avions... En vacances, on se retrouvait toujours une bande... Et un ami qui avait été opéré de la gorge et tout ça. Et on avait un autre monsieur qui était... très, très, très intéressant. Mais lui, au fur et à mesure qu'il parlait, les idées venaient et tout ça, donc il ne s'arrêtait jamais.
Ben, c'est ça.
Alors, ce copain qui ne parlait plus, il avait fait un écriteau. Ta gueule.
Excellent.
Bon, alors, au moins, c'était explicite.
Josiane, puisque tu as la parole, je te propose de la garder. Est-ce que tu as des petites...
Oui, je peux vous amuser.
Énigmes à nous dire.
Josiane, je te promets, je n'ai pas fait d'écriteau.
Oh ben,
tu peux y aller.
Il n'y a pas trop trop long.
Alors, bien dans le micro, en revanche.
Voilà, bon. Alors, parce que le micro m'empêche...
Une fois que tu as un micro...
Non, mais m'empêche de lire, comme j'ai des problèmes de vue. Bon, alors... vous parlez à quelqu'un qui n'a pas eu l'air de comprendre ou d'entendre, ou autre, d'être un peu sourd. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Il y a le nom d'un pays ou d'un habitant d'un de ces pays-là.
Attends, j'ai pas compris le...
C'est les pays...
Quelqu'un qui est pas obligatoirement sourd, mais qui a pas compris ou qui te répète, enfin... t'as l'impression qu'il est sourd.
Oui.
Il y a une expression, en fait.
Il y a une expression, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
C'est un nom de pays, là, qu'on cherche.
T'as les Portugaises ensablées?
Voilà.
Exact.
Ben voilà.
Voilà, c'est ça.
Oh là là. Elles sont sur le même. Oh là là. Elle va tout trouver, elle, tout de suite.
Alors, quelqu'un qui est la cible des plaisanteries des autres. On dit de lui.
ça n'a rien à voir avec l'humour belge.
Non.
Non.
Qui est la cible de la plaisanterie ouais. des autres.
C'est la tête de Turc.
Tête de Turc.
Ah, ben tête de Turc, oui.
Ben oui.
Voilà. Alors, quelqu'un qui est très, 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 très ivre.
Sous comme un polonais. Une barrique.
Comme un polonais.
Ah, un polonais, ben c'est une barrique, c'est mon
oui.
pays.
Alors, mais cette expression, on la doit à Napoléon.
Ah bon?
Ah. Oui.
Intéressant ça.
Polonais, ah bon
oui, parce qu'il a été il a été en Pologne. Et sachez que c'est le seul hymne au monde où Napoléon est vénéré en Pologne.
Ah bon? Parce qu'il buvait?
Non, mais pour lui, sous comme un Polonais, ça voulait dire que les Polonais étaient, c'était certes un peu enivrés, mais qu'ils étaient extraordinaires dans les batailles.
Ah oui, quand même. D'accord.
Voilà. Et c'était un hommage aux soldats polonais d'accord. et leur courage.
Mais je d'accord. sais que dans l'hymne polonais, je sais qu'un commentateur avait eu l'intelligence d'expliquer et de dire, vous savez que dans cet hymne-là, il parle de Napoléon.
Voilà, d'accord. absolument.
Alors, parler très très mal le français.
Comme une vache espagnole,
oui.
Voilà.
Oh,
voilà.
Bravo. Alors, parler du très beau temps en automne.
Oui, ça, je vois.
On parle de l'été indien.
L'été indien.
L'été
donc,
indien,
voilà,
oui,
la
voilà.
La chanson l'été indien. L'été indien. Voilà. Quelque chose d'absolument incompréhensible.
Qu'est-ce que c'est que ce charabia?
Non, mais il y a des noms.
Et c'est le nom d'un pays
ou de peuple.
Ou de peuple. Quelque chose de.
D'incompréhensible.
Complètement.
C'est du javanais
c'est du charab.
Du Josiane.
Je m'en souviendrai, toi. Je vais te garder un chien de ma chienne.
Complètement.
Non, alors vous avez le choix. C'est du chinois.
Ah,
c'est
chinois, mais oui.
C'est vrai.
C'est de l'hébreu.
L'hébreu,
oui,
bien sûr.
Aussi.
Voilà. Alors ça, je sais pas. Quelque chose qui est vraiment très luxueux.
Alors là, je l'ai pas.
Très luxueux.
C'est Byzance.
Ah, c'est Byzance.
Voilà.
Bon.
Donc, les autres, c'était sur des légumes. Je vais pas vous embêter avec mes légumes.
Non, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions, effectivement, qui
non, mais
font référence.
Les Portugaises ensablées, oui, ça, c'est très connu.
Oui, hein, c'est vrai.
Mais c'est vrai que les expressions qui font référence au pays, par exemple, c'est pas le Pérou.
Oui,
le Pérou,
il y en a plein. Hein.
Mais par contre, il faut les trouver en fonction des définitions.
Oui, ouais. Voilà, c'est pas toujours facile.
Bon, alors, attends, je lève mon...
Ah, il y a encore une.
Ah, je lève pas mon écriteau encore.
La dernière.
La dernière. Alors, attends, je le reprends. Partir discrètement.
En catimini.
Non.
Ah bah oui, mais enfin...
Non, c'est un nom
c'est
de...
C'est un pays, c'est pas un pays.
Un pays ou des habitants.
Alors, partir...
À l'anglaise, file à l'anglaise.
Ah, file à l'anglaise. Bravo.
Bravo Jean-Jacques. Bon, on va écouter une nouvelle petite chanson, alors qui date des années 80, fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Julien Clerc avec Quelques mots en ton nom. À tout de suite.
Quelques mots en ton nom.
Sur le mur, une aquarelle.
s'aime plus. Mes mots partis avec toi vers un monde inconnu cherche ta voix.
Donc c'était Julien Clerc avec une chanson de 2000, j'ai dit des bêtises, 1980, mais ça va pas bien la tête, non. Bref, pardon, excusez-moi.
D'abord, et c'est vrai qu'il a la voix,
la voix qui a pas changé.
Si, il a changé quand même.
Avant, il chevrotait beaucoup plus.
Ah oui, ben, c'est un indice ou quoi? C'est un indice pour notre couple mystère.
Tiens, c'est marrant.
Un superbe indice. Hein.
Bon, on dévoile le couple mystère. Alors, bon, la voix qui chevrotte un peu, oui, effectivement, mais ça vous rappelle des films de 1981, je ne sais pas. Est-ce que vous serez comme 3 millions de Français à aller voir ce film? Je ne sais pas. Jean-Jacques, tu avais fait une petite chronique sur les publicités?
Oui, super.
Chouette alors.
Alors, c'est parti.
Alors, attends.
Alors, là, il va falloir que tu te mettes dans l'ordre, là. Hein.
Ouais.
Il y a 1, 2, 3. D'accord. Coucou. Revoilà nos mini-chroniques sur les réclames, car on ne disait pas publicité autrefois, du moins dans la plupart des foyers de notre beau pays. Donc, à la demande générale de Jacqueline, c'est reparti. On commence par un classique. Mais toutes les réclames des produits les plus connus sont devenues des classiques, non? La lessive Tide.
Tide, 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 vous plus blanc que tout, bien plus blanc, bien plus blanc. Même mon mari l'a vu.
La lessive Tide. Pour les petits curieux, d'origine américaine, cette lessive est apparue dans le paysage consumériste en 1946.
Waouh, l'année de ma naissance.
Mais pourquoi tu le dis?
C'est une belle année. J'ai rien à cacher.
C'est une belle année.
Allez, on passe à la suivante.
C'est parti.
Ah, Lizara. Quand on allait rendre visite à notre vieille cousine Berthe ou tonton Maurice, il y avait presque toujours, pour nos parents, à déguster le petit coup d'Izara, la liqueur basque. Comme il est dit, si vous avez bien écouté, jaune ou verte. Personnellement, je me souviens surtout de la verte.
Ces échos des Pyrénées, c'est aussi pour nous l'écho d'une chanson. Celle d'Izara, la grande liqueur du Pays Basque. Couronnement prestigieux d'un bon repas, Izara, verte ou jaune, c'est du soleil dans votre verre, c'est de la joie dans votre palais. Izara, aux plus fines fleurs des Pyrénées, Izara, de par son excellence, est une liqueur de roi. Offrez-vous souvent la joie de boire Izara, verte ou jaune. Izara, naturel, Izara, toujours vous comblera.
Alors là, maintenant, sur un petit air très proche de « Il y a une pie dans le poirier », repris naturellement par les bonbons de la pie qui chante, là, c'est les graines Villemorin qui s'y collent avec son catalogue de graines et produits pour les jardiniers, semences, plantes, fleurs, légumes. Pour précision, cette fabrique historique fut créée à Paris en 1743. C'est devenu une société internationale. Quand je dis internationale, c'est niveau mondial. Une multinationale, quoi. Dont l'un des sièges sociaux est à la Méditerranée. En rédigeant avec le sérieux qu'on me connaît ces mini-chroniques, j'apprends vraiment plein de choses.
Villemorin, c'est bien certain, est roi des bonnes semences. Villemorin, dans un jardin, c'est le succès de demain. Demain, demain, récoltez en abondance. Tout vient si bien avec les graines Villemorin.
Vas-y.
Next. J'avais déjà diffusé des réclames chantées par Charles Trenet. Cette fois, c'est pour Picon. Picon, j'avais déjà fait ça. C'est très court et ça joue sur le titre de sa plus célèbre chanson et la caractéristique principale du produit, l'amer Picon.
L'amer Picon, l'amer Picon, c'est bon.
C'est fini.
C'est court quand même. Hein. On espérait un peu mieux du personnage.
Oh, merci pour cette chronique, j'adore.
C'était pas les grandes marées, là.
Bon, et alors on a dit que c'était chevrotante. Merci pour cette tirade. Voilà, c'est très bien. C'est un indice aussi pour identifier le couple mystère, la tirade.
Nez
bah, par exemple. Hein. Moi, c'est ce que j'associe à un des deux personnages, au moins.
Ah oui.
Hein, oui. Voilà, ça a été un monument cinéma, ça.
Ah oui.
À tout point de vue, monument.
Il est de taille monumentale.
Il est monumental.
On me l'amputasse.
Bon, je vous propose d'écouter une nouvelle chanson et puis on va dévoiler après le couple mystère pour nous dire ce que vous en avez retenu vous de ces personnages. À tout de suite. C'était donc M avec Vanessa Paradis qui chantait La Scène. Alors La Scène, c'est un peu le lieu où se présente aussi notre duo mystère. Hein. Ils ont fait aussi bien du cinéma que du théâtre. Hein. Et on parlait de la tirade. Alors ça va vous mettre forcément sur la piste. C'est la tirade du nez dans Cyrano de Bergerac hein, qui était interprété par
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, qui était,
jeune homme.
Oui, et qui était associé dans le film La Chèvre avec notre ami
Pierre Richard.
Voilà. Donc deux personnages, on va dire très importants hein, dans la comédie française et dans le cinéma. Pierre Richard qui jouait toujours un petit peu des rôles de personnages, on va dire décalés. Limite second rôle parfois mais qui rattrapait bien. Moi j'en ai souvenir dans Le Jouet où là il est phénoménal aussi. C'est toujours un rôle voilà le grand blond avec une chaussure noire. Enfin il avait des rôles un peu décalés.
Ouais. Lunaire.
Et à côté de ça, le grand Gérard Depardieu, qui en impose de sa personne, lui venait jouer le rôle un peu trop sérieux. C'était un peu décalé comme rôle, mais ça marchait très bien.
Mais qui se laisse attendrir par le personnage de joué par Pierre Richard toujours.
Et donc Jean-Jacques, tout à l'heure, toi qui l'as identifié immédiatement, on parlait des Fugitifs et des Compères. Où là aussi, alors moi j'ai moins de souvenirs sur ces deux films-là. La Chèvre me parle plus.
La Chèvre, il doit retrouver une petite fille. Hein, oui. Il est mandaté, voilà. Tout ça. Et
bon, c'est monsieur Malchance qui aura toutes les chances de la retrouver.
Ben voilà, parce qu'il y a le psychologue de l'entreprise dit, bah, ça serait pas mal peut-être de voir, parce que elle était malchanceuse, lui, il est malchanceux. Et ça a fonctionné, quoi.
Et c'est vrai que la première scène où il se mange la porte vitrée, c'est voilà.
Mais la dernière scène est tout à fait parlante après, parce que là, on les voit tous les deux qui sont réunis sur ce petit radeau qui s'éloigne. Mmh. C'est assez marrant, quoi.
C'est dans la chèvre où il tombe dans des sables mouvants, non?
C'est bien ça. Mais il n'y a pas de sable mouvant ici. Bah, si. Il va falloir revoir la carte.
Et donc dans Les Fugitifs, effectivement, j'ai moins de souvenirs de ce film-là. Ils étaient autant décalés dans le film ou pas?
Ils sont toujours très décalés.
D'accord.
Toujours, voilà. Je me rappelle surtout des compères.
Ouais.
Ou les compères, là, je veux dire qu'ils
sont... C'est plus récent, ça, hein, les compères.
Oh, oui, mais ça a suivi quelques années, quoi. Je veux dire où là, apparemment, ils sont mandatés, à la limite, toujours pareil, par la mère, qui son fils a disparu, Je pense qu'il fait les 400 coups, quoi. Elle veut le faire ramener, tout ça. Et elle fait croire à chacun de ses ex, hein, qu'il est le père. Mmh. Et à la fin, d'ailleurs, on ne sait pas.
Ça se trouve, c'est un troisième larron.
J'ai pas regardé en préparant l'émission quel âge ils ont, Gérard Depardieu et
Pierre Richard. Il doit être de 48 ou...
Hein, oui, à peu près.
Et Pierre-Richard a quand même plus de 80 maintenant.
Ouais, mais oui. Je trouve qu'ils en imposent toujours autant. Hein, et
oui, mais Pierre-Richard a changé complètement son répertoire parce qu'il a fait des fois des films où il était extrêmement émouvant. Mmh. Je repense à Rémi sans famille, par exemple, où là, il faisait un personnage touchant.
Après, en devenant directeur de théâtre, je pense qu'il a eu l'occasion aussi d'aller dans d'autres registres
mais
que la comédie.
Mais il avait un directeur de théâtre.
Oui, Pierre Richard,
pas.
Oui.
Je ne savais pas. Mm.
C'est pas lui qui vit sur une péniche comme habitation, il me semble.
Alors ça, je ne sais pas. Voilà. Mais on n'a pas été invité.
Non, on n'a pas été invité. Non, mais c'est des comédiens absolument fabuleux parce qu'ils ont des répertoires très différents et ils évoluent avec l'âge, avec les circonstances de la vie. Mmh. Je trouve ça absolument fabuleux.
Bon. Et si on écoutait un petit peu Jean-Jacques pour ouvrir la parole sur l'UFC Que Choisir, parce qu'il y a toujours quelque chose, paraît-il, Jean-Jacques, à nous proposer.
Environnement. Plus de consignes des bouteilles en plastique. Le gouvernement abandonne son projet de consigne sur les bouteilles en plastique après une concertation nationale lancée en début d'année. C'est un soulagement pour les collectivités locales chargées du recyclage des déchets, pour les consommateurs et pour l'environnement. Depuis 8 mois, élus et associations environnementales dénonçaient une mauvaise idée inscrite dans la loi anti-gaspillage de février 2020. Consigner les bouteilles en plastique. Le gouvernement avait mené une concertation citoyenne qui s'est achevée en juin. Une forte mobilisation des élus locaux et mouvements associatifs soulignait les nombreux inconvénients de cette formule. D'abord, c'était une fausse consigne, puisqu'il était prévu non pas de réutiliser les bouteilles en plastique consignées, mais de les recycler. Or, ces emballages sont déjà plutôt bien triés par les ménages, et leur revente aux industriels par les communes est nettement plus rentable que celle des autres déchets en plastique. Ensuite, les risques étaient de priver les collectivités locales de cette ressource. Brouiller le message du tri des emballages et encourager le recours aux bouteilles en plastique par l'agroalimentaire. Enfin, la conséquence inévitable était une nouvelle charge sur les consommateurs pour financer cette collecte avec des automates spécifiques. En réalité, cette fausse bonne idée était vraisemblablement inspirée par les industriels de l'eau et boissons en bouteilles de plastique. Selon une étude de l'Agence de l'environnement, l'ADEME, ils avaient plusieurs centaines de millions à gagner dans l'affaire.
Voilà, toujours un petit intérêt économique avant l'intérêt écologique.
Avant l'intérêt général. Mmh.
Alors, moi, je me dis qu'ils ne vont pas assez loin, de toute façon, puisque si le plastique est vraiment un problème, pourquoi ne pas l'interdire, tout simplement?
Déjà, les sacs, c'est déjà fait. Mmh. Hein,
mais... Oui, et ça a mis du temps, mais on y est quand même arrivé.
Et je m'interroge aussi sur notre manière de consommer, parce que il y a des sociétés qui sont très très consciencieuses, hein, qui font leur métier du mieux qu'ils peuvent. Mais je vois qu'il y a maintenant, on avait le pot à lait qui était livré au pas de la porte autrefois. Aujourd'hui, on nous vend du soda au pas de la porte, et du coup, je me demande quel est l'intérêt de ne pas aller chercher la consommation dont on a besoin. En fait, on encourage une consommation à volonté, et en se dédouanant, en disant bah oui c'est du verre, c'est bien pensé, voilà, on génère peut-être plus de transport que le circuit de distribution classique, ça m'interpelle.
C'est marrant ce que tu me dis, parce que quand tu parlais de la distribution du lait devant la porte et tout ça, moi je revois toujours dans les films américains,
oui,
le livreur de lait et qui pose la bouteille de lait là,
oui,
qui est recyclable, enfin qui devant la porte, c'est marrant ça.
Alors que moi je me souviens quand j'étais toute petite, j'allais j'habitais le faubourg Saint-Michel et il y avait l'épicerie du coin avec le grand pot à lait en aluminium, et moi j'avais le petit pot à lait et on allait se servir à la louche pour pouvoir prendre son lait, et on marquait sur le carnet et on payait à la fin du mois.
Alors tu le faisais où ça?
Boulevard Saint-Michel.
Alors que nous on allait à la ferme à côté, parce que j'étais dans un petit
faubourg Saint-Michel,
et on allait avec le pot pareil.
Et j'allais et on m'appelait le petit chaperon rouge parce que j'avais mon petit panier avec mon petit pot.
Et la galette de beurre? Non.
Oh, et j'ai pas rencontré le loup.
Et puis t'avais les gens qui disaient la voisine, il a dû lui arriver quelque chose parce qu'il y a 3 bouteilles de lait qui sont restées dehors. Donc
c'était un signal.
Il y a quelque chose qui va pas.
Ah, il y avait un côté sociétal.
Quoi. Oui, voilà.
Mais le fait est qu'effectivement, on a connu ces réseaux de distribution de proximité. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le circuit court, on est incapable de le présenter de la même manière. Faut qu'on vende des choses qui viennent, la bière exotique produite à 400 km de chez nous. Enfin, le circuit court, c'est tout relatif, j'ai l'impression, quand même.
D'un autre côté, on aimerait bien quand même toujours continuer à manger des bananes.
Mais oui, j'en ai mangé une ce midi. Mais c'est vrai que c'est pas locavore, quoi. C'est comme les oranges. Voilà. C'est en Anjou, on n'est pas encore assez.
Ça vient un petit peu quand même. On a fait des progrès.
On va pas faire pousser des oranges, sur le sable irlandais.
Ça m'étonnerait effectivement.
C'est surtout les bananes qui sont encore plus difficiles.
Mais bon. C'est tellement bon.
Okay. Merci Jean-Jacques pour cette petite chronique. On se retrouve dans 15 jours.
Alors,
il est en train de se sauver maintenant qu'il m'a pourri mon duo mystère.
Mais il n'était pas le seul, parce que je l'ai trouvé aussi, hein, je te signale.
Allez, à plus.
Au revoir, merci pour la chronique.
Dès que je pourrai encore, je ferai.
Grand plaisir.
Salut.
On va continuer avec une nouvelle chanson que c'est pas la première fois que je diffuse, mais je la rediffuse parce que je l'aime bien cette chanson. Et il y a Michel Jonas qui vient à Angers le 10 décembre. Je ne sais pas s'il est complet encore, mais moi j'aurais plaisir à aller le voir avec mon épouse. Donc je vous propose d'écouter tout de suite Michel Jonas et la maison de retraite. À tout de suite. Ouais.
J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, de la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps, de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus, et perdre, me disais-tu, le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire, peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite, de la fin qui commence, de l'esprit qui divague, de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours, et le jour et la nuit. Le jour et la nuit.
tête, ça je te jure sur ma tête, nous on n'ira jamais. On dormira dehors, on regardera les étoiles, on vivra libre et digne. On se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. On vivra libre et digne. Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot du tout dernier poème, on partira ensemble, tu comprends. On sera jamais trop vieux. Pour se dire que l'on s'aime, se regarde dans les yeux. On sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux.
Donc c'était Michel Jonas avec la chanson La Maison de Retraite, que je vous invite vraiment à aller voir en concert. Alors ça se passera à l'ancien centre des congrès, l'auditorium Jean Monnier, et puis ça aura lieu le 10 décembre à Angers. Jacqueline, est-ce que tu as un petit édito culturel à nous faire cette semaine?
Oui. Il y a depuis peu, depuis le 21 octobre, une exposition au Musée des Beaux-Arts à Angers, un siècle de photographie face à la peinture et aux arts graphiques. Donc ce sont des photographies anciennes d'Angers et c'est du samedi 21 octobre au dimanche 10 mars de 10h à 18h, tous les jours sauf le lundi.
Ça vient compléter l'exposition dont tu nous as parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, Josiane. Bon, ok. Et pour le coup, aux Beaux-Arts, tu
au Musée des Beaux-Arts.
D'accord.
Bon. Alors, oui, l'entrée est Place Saint-Éloi.
Oui. Alors, pour le Musée des Beaux-Arts, moi, c'est toujours un lieu magique. Il y a des collections permanentes et des collections
temporaires. De toute façon, on peut y aller autant de fois et y passer vraiment beaucoup de temps. Oui. J'adore ce musée.
Alors, je me souviens d'une visite avec l'association Alzheimer. Et nous avions un guide qui nous accompagnait partout et qui nous faisait constater les costumes, les couleurs et tout. C'était absolument magnifique.
C'était une visite sensorielle aussi. Il y avait le droit de toucher ou de sentir,
tout à fait,
c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, tous les tissus et tout ça, c'était merveilleux.
Hein. On va faire un petit peu d'autopromotion, puisqu'on a un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'avec les personnes malades, on croit souvent que les choses sont compliquées et de nature, elles le sont, mais tout n'est pas impossible. Et pour le coup, effectivement, l'éveil à l'art avec des personnes malades, c'est tout à fait possible.
L'art et la musique.
Voilà, la
musique.
Oui,
puis alors surtout qu'une visite comme ça, on n'était pas 50. Hein. Donc c'était un petit groupe. Ça nous permettait d'aller toucher même des tableaux, la peinture, alors qu'en principe, on ne touche pas. Hein,
non. Elle
nous
expliquait. Mais non, mais c'est ça, effectivement. Mais par contre, effectivement, de ressentir avec tous les sens, ça fait vivre les choses différemment et avec une autre intensité. Et je pense que faut le rappeler, hein, les personnes malades, elles ont toujours les émotions, elles ont toujours des sentiments. Il faut leur donner ces espaces, justement, pour les explorer. Donc, les Beaux-Arts, allez-y, que vous soyez en bonne santé, malade, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez homme, femme.
Enfin, voilà, l'art est à portée de tous.
Voilà,
emmenez vos petits-enfants.
Oui.
Fait découvrir des choses. Hein.
Il ne faut surtout pas arrêter d'aller voir l'art. Voilà. On va se retrouver les amis dans 15 jours et puis je vous souhaite une bonne semaine à
avec
tous.
Avec grand plaisir.
Peut-être que Ricardo sera de retour parmi nous.
Avec plein de
c'est le challenge. Dans la tête. Bon, merci Marc.
Ah, merci.
Une petite bouteille d'eau de mer.
Merci à
merci
vous.
Jacqueline, merci Josiane.
Merci à toi.
Et puis Marc, Jean-Jacques, il est déjà parti. Ah, ouais. On le retrouve dans 15 jours. Bonne semaine à tous, à bientôt.
Au revoir.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
Radio G. www.radio-g.fr